Mesdames et messieurs, bonsoir. Je m'appelle Jean-Marc Vittori, je suis éditorialiste au quotidien Les Échos et chargé d'animer ou de modérer, nous verrons, cette conférence, cette grande conférence. J'ai publié un livre à l'occasion de ces années d'économie sur la gouvernance mondiale, dans lequel Pascal Lamy, le directeur général de l'OMC, explique qu'il y a trois états de la gouvernance. Il y a le catholique, c'est le niveau national, où il s'oppose à lui, puisqu'il a été un premier ministériel, il y a une évolution importante. Il dit que c'est l'état liquide, c'est l'état de l'Union européenne, de la gouvernance européenne. Et puis, il y a l'état gazeux, qui est la gouvernance mondiale. Donc, hier, dans la première grande conférence de ces années d'économie, il était question du gazeux. Et aujourd'hui, bienvenue dans le liquide. Mais le liquide a des états aussi, d'un état qui peut changer. Quand la température baisse, on peut s'approcher de la glaciation, comme une bouge. Ce n'est pas précisément ce qui se passe en Europe actuellement, mais on est plutôt à l'autre bout, quand la température monte, on est proche de l'ébullition. Et aujourd'hui, la gouvernance européenne est un état liquide qui n'est pas très loin de l'ébullition. Quand Patrick Artus a commencé à concevoir le programme de cette table ronde, la Grèce paraissait encore un emprunteur comme les autres. Il n'y avait pas un fonds de 750 milliards d'euros qui avait été créé pour venir en aide éventuellement à certains pays. Le FMI est une institution qui travaillait avec cet homme et qu'on ne voyait pas en Europe. Bref, beaucoup de choses ont changé. Et en même temps, on a l'impression qu'on est au tout début d'une évolution de la gouvernance européenne, une évolution qui était peut-être souhaitable, nous en parlons, d'une évolution dont on ne voit pas encore très bien jusqu'où elle va aller. Et avec l'idée centrale que l'état auquel on est arrivé avant cette crise était un état intermédiaire, ce n'était pas une fin. Sur la longue route de la construction européenne, nous sommes à nouveau à un moment où soit il faut avancer, soit il est possible que l'on recule et que l'on recule parce qu'on va assez vite. Nous avons sept intervenants pour débattre ce soir. Je regarde parce que nous avons eu une proposition qui a un peu changé. Il y a un intervenant qui était parmi plusieurs programmes, qui était Benoît Thuré. Il y a deux personnes qui finalement ont trois personnes, qui finalement n'ont pas pu venir. Benoît nous a fait l'idée de rester, il était venu pour une table de présentation, puis il aura parti sans doute un peu avant la fin pour pouvoir attraper son train. Donc nous allons commencer avec Daniel Lebrun. Daniel est directeur du Center for European Policy Studies. Il est aussi président d'une société de gestion d'actifs qui s'appelle Horizon, Il a travaillé au FMI et pour la Commission européenne. Il travaille donc sur deux gouvernances assez différentes. Et il siège, si j'ai bien compris, au conseil de la Banque centrale islandaise depuis peu, suite à des événements islandais dont vous avez peut-être entendu parler. Et donc, je voudrais commencer à parler en vous demandant pourquoi, face à cette situation, les événements que nous avons vécu, qu'il faut un fonds européen européen.
Merci beaucoup pour cette introduction. Vous avez raison que la gouvernance économique européenne est dans un état d'ébullition. Et c'est un état extrêmement instable. Et je pense qu'on est vraiment au point où il faut avoir des décisions concrètes. On a parlé très longtemps de la nécessité d'une gouvernance européenne in abstracto, mais en temps normal, on a vu que au moins les États membres n'ont pas exprimé un vœu très fort de vraiment faire une coordination très forte de leur politique. Une fois qu'on entre en temps de crise, tout ça change. En temps de crise, il y a des effets externes extrêmement importants d'un État à l'autre. Si un État fait des bêtises, les autres en ressentent. Et évidemment, les mécanismes de transmission, c'est toujours, et plutôt, les marchés financiers. Les marchés qui ont une vitesse de décision beaucoup plus importante, beaucoup plus vite que ceux des politiques. Et c'est la raison pour laquelle la politique a pris un retard, je pense, considérable. Et les marchés les appellent pratiquement tout le temps à faire quelque chose. Et on ne peut plus attendre maintenant à faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense que les problèmes que nous avons devant nous maintenant, c'est assez clair. Il y a un danger concret d'une faillite d'un État membre de la zone euro. Ce n'est pas une certitude, c'est une éventualité, mais on ne peut plus l'exclure. Une fois on dit éventualité, les marchés, évidemment, deviennent extrêmement nerveux. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas? Est-ce qu'on peut y réagir? Le Conseil européen a déjà réagi très fort dans le mois de mai, quand les États membres se sont mis d'accord à créer ce qu'on appelle une facilité européenne de stabilité financière, si j'ai bien compris. Le fameux fonds de 750 milliards, au moins sur le papier, au Luxembourg. Est-ce qu'on a résolu les problèmes? Évidemment, les marchés nous disent aujourd'hui, non, le problème n'est pas résolu. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de plan B. C'est-à-dire, on a un plan A, qui est plus ou moins l'approche du Fonds monétaire international de Washington. Si un pays a une difficulté, on lui prête des sommes plus ou moins importantes, à des conditions sévères, très sévères, extrêmement sévères, mais on prête. Et au fond, on n'a pas de choix, parce que si on ne prêtait pas, il y aurait une catastrophe sur les marchés financiers. Et c'est ça le problème principal. Les chantages des marchés, on ne peut pas éviter si on n'est pas préparé. Si on est préparé seulement à avoir pratiquement un Fonds monétaire international d'Europe un peu plus grand, mais aux mêmes conditions et avec la même finalité, on aura toujours le même problème et on n'a pas de plan B. Pour moi, ce qu'il faut préparer maintenant, c'est un plan B, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait si il y a vraiment une situation intenable, si le gouvernement grec tombe et demain il y a un autre gouvernement qui ne veut plus payer, si la dette des banques irlandaises devient vraiment trop importante pour l'État irlandais de la soutenir, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et mon approche, c'est de dire il faut être prêt à soutenir pas seulement les États, mais peut-être aussi les marchés. C'est-à-dire, si le poids de la dette publique devient trop important pour un État, on devrait pouvoir dire, dans ce cas, peut-être on devrait organiser une faillite ordonnée de l'État, tout en étant calmant les marchés avec les moyens financiers qu'on a déjà à disposition. C'est la raison pour laquelle je dirais, on est tout près d'une solution financière. On a déjà un grand fonds, au moins un virtual fonds, c'est-à-dire on a une disponibilité des pays membres à mettre ensemble une somme d'argent extrêmement importante. Et la seule chose qu'il fallait faire maintenant, c'est de dire on pourrait utiliser les sommes soit pour sauver les États, soit pour sauver les marchés, c'est-à-dire les banques qui sont systémiques. Je pense que quelqu'un d'autre va parler du rôle central des banques dans notre système économique et financier. Et une fois qu'on a fait ça, on pourrait aborder toute la question, comment dire, plus calmement. La faillite d'un État ne devient plus une catastrophe à éviter à tout prix et quelque chose duquel on ne peut même pas parler sans effrayer les marchés. Si on a un système pour calmer les marchés, pour sauver les banques, même dans une crise de dette souveraine, on pourrait affronter vraiment les futurs de la zone euro beaucoup plus calmement. Je m'arrête ici.
Merci, Damien. Le premier élément de proposition pour avancer, pour faire que ce qu'on a vu, ce qu'on peut craindre, ne devienne pas demain une réalité dramatique. Nous allons maintenant poursuivre avec Lucas Tsoukalis, Lucas est président de la française d'Eliamet, qui est un think tank grec qui travaille sur la politique européenne, la politique étrangère. Lucas est spécialiste de ces questions européennes depuis longtemps et aussi un conseiller du président de la Commission. Et donc, Lucas, vous estimez que la crise a eu un effet positif, qu'elle pourrait nous emmener vers une Europe plus intégrée. Je voudrais que vous nous racontiez un peu ça.
Alors, je vous remercie. Je commencerai par un constat un peu banal, à savoir que la crise est la mère des changements. et que dans le passé, des crises ont joué souvent le rôle de catalyseur d'une intégration plus poussée au niveau européen. Je pense qu'il est fort probable que ce type de phénomène se répète. Après la première grande crise de l'euro que nous avons vécue cette année, la question reste néanmoins de savoir si les changements en cours seront durables ou non, surtout si les contextes économiques demeurent défavorables. La crise a initié des réformes dans certains États membres, ainsi qu'au niveau de l'Union européenne, des réformes qui, peu de temps auparavant, auraient paru totalement inconcevables. Par exemple, dans mon pays, la Grèce, qui s'est trouvé dans l'œil du cyclone, après des années de mauvaise gestion des finances publiques et d'une irresponsabilité, je dirais, colossale de sa classe politique, nous traversons depuis quelques mois une phase de redressement budgétaire ambitieux et en même temps très douloureux, qui représente plus de 5% du PNB rien que pour la seule année 2010. Cet ajustement budgétaire est accompagné par des réformes structurelles majeures dans les domaines de fiscalité et des retraites, ainsi que par des mesures de libéralisation des marchés des biens et de travail. La Grèce a été le précurseur d'événements et de mesures dans d'autres pays vulnérables de la zone euro, comme le Portugal, l'Espagne et l'Irlande. Ces pays, pour des raisons différentes que la Grèce, suivent aujourd'hui un chemin assez similaire. Entre-temps, placés au bord de la précipice, les leaders européens ont arrêté des décisions vraiment courageuses pour sauver la monnaie européenne jusqu'à maintenant. Et ils ont aussi amorcé les négociations pour une réforme ambitieuse de la gouvernance de la zone euro. Voilà pour les bonnes nouvelles. Hélas, je pense qu'il y en a d'autres aussi moins encourageantes. Je vous donne une petite liste dans le temps que j'ai à ma disposition. La reprise en Allemagne n'est pas encore suffisamment solide, tandis que dans la plupart des pays de la périphérie européenne, surtout du sud, elle n'est même pas encore visible. L'accent est mis partout en Europe sur la consolidation budgétaire, qui, bien que nécessaire dans certains pays comme le mien, plus que dans d'autres, pourrait fragiliser la reprise. Si l'Europe entre à nouveau dans la récession, qui n'est pas du tout exclue et que bien sûr je ne souhaite nullement, le chômage qui est déjà trop élevé va augmenter davantage au risque d'entraîner des conséquences sociales et politiques graves. Des pays comme la Grèce ou même comme l'Irlande sont déjà en train de tester les pointes de rupture de la cohésion sociale, ainsi que l'endurance de leur système économique et même politique. Il y a alors une divergence de vues, aussi bien qu'une hétérogénéité considérable de performances économiques au sein de la zone euro. Il y a toujours aussi une divergence de vues sur la répartition du fardeau d'ajustement entre pays déficitaires et pays excédentaires, en termes de balance de paiement courant. C'est un vieux problème, nous savons, qui date déjà du temps de Keynes et des accords de Bretton Woods. Ce problème est tout autant européen qu'international, opposant aujourd'hui les États-Unis à la Chine. Dans le débat intra-européen, nous essayons au moins d'être plus diplomatique et plus poli entre nous. Très probablement, allons-nous alors arriver à une coordination plus étroite et astreignante des politiques économiques nationales, couvrant des domaines beaucoup plus étendus que par le passé. Cette coordination renforcée sera probablement, très probablement, accompagnée par des sanctions plus ou moins automatiques et par une surveillance, espérons, plus efficace. Bien sûr, c'est la bonne direction, mais le bât blesse, je pense, au niveau de la mise en œuvre, surtout en Europe, à cause des structures de prise de décision qui sont inévitablement très complexes. Par exemple, comment vont réagir les parlements nationaux, surtout ceux des grands pays, quand ils commencent à recevoir des recommandations, des instructions plus ou moins contraignantes sur le plan macroéconomique de la part des institutions européennes? On va voir. Nous avançons, je pense, alors vers une intégration plus poussée au niveau européen, mais malheureusement, l'appétit pour cette intégration n'est pas encore là. Alors, espérons que l'appétit viendra en mangeant. Et pour conclure, je dirais que je garde un optimisme réservé quant à l'avenir. Mon optimisme repose surtout sur le constat que les enjeux sont vraiment énormes pour nous tous. Ceci veut dire que nous n'avons d'autre alternative que de gagner ce pari.
Merci Lucas, on a entendu votre optimisme, mais on a aussi bien entendu vos réserves et elles sont bien sûr présentes dans la suite du débat. On va parler maintenant d'un acteur essentiel dans cette crise et où les enjeux sont aussi essentiels, qui est la banque. Et nous avons un banquier pour en parler, Olivier Quint, qui est directeur général de la BPCE, sur l'activité banque commerciale. C'est un point que beaucoup d'entre vous devraient connaître, puisqu'il a été patron de la Caisse d'épargne Rhône-Alpes pendant plusieurs années. Je crois qu'il en a une certaine nostalgie. Il est également patron de la majeure à l'économie associée. Donc, tout ça dans la banque. Olivier, on a bien vu que cette crise est particulière, que la banque est une institution éminemment nationale. Que faire pour aller vers une banque plus européenne? Il y a un certain nombre de choses qui ont été réussies, qui ont avancé très rapidement, beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait croire. Si je n'ai pas écrit, mais est-ce que ça suffit? Comment ça se passe aussi par rapport aux banques américaines?
Je vais essayer de prendre le sujet en pensant que, évidemment, la crise financière majeure qu'on a vécue a conduit à une remise en question du modèle bancaire. Et pour essayer de parler plus concrètement encore, je vais différencier très rapidement les modèles bancaires, disons, des grands pays européens, y compris latins, des modèles bancaires américains. En quelques secondes seulement, les banques européennes, des grands pays européens, mais aussi notamment les banques françaises, sont des banques qui sont très intégrées, qui sont des banques globales, qui font la branche globale du client, qui est souvent. Ce sont des banques qui font tous les métiers, qui parfois intègrent même en France l'asset management, la gestion de banque de tiers, la fabrication digitale, des fonds de placement, etc. Parfois même l'assurance vie. Tout cela fait intégrer au sein d'un groupe bancaire. Le modèle américain est globalement un modèle éclaté. Il y a beaucoup de spécialistes, il y a beaucoup d'Américains qui ont une banque pour la banque au quotidien, et puis qui ont une banque pour faire des crédits de consommation, un spécialiste, et puis qui ont une banque et qui ont des courtiers pour faire des placements financiers, qui ne font jamais ça au même endroit. Et il y a énormément d'acteurs, spécialistes, énormément de banques, et quelques banques rares en nombre proportionnellement à la banque, qui sont vraiment de taille globale et de taille globale. La deuxième caractéristique qu'on peut donner, mais qui est un peu en plus que la première, c'est que si l'on regarde le financement des entreprises, par exemple, aux États-Unis, il y a 20% de crédits qui sont faits par les banques, qui sont conservés par les banques. 80% des crédits qui sont faits par les marchés ou faits par les banques, mais immédiatement utilisés, donc portés ensuite par les banques. En zone euro, c'est 66 à 70% des crédits qui sont faits par les banques pour les entreprises. Et 30 à 33% qui sont faits pour le marché et peu d'utilisation. Donc ça change évidemment globalement le rapport entre les banques et les entreprises et les clients en général. Pour aller un peu plus loin, je vais tenter très rapidement de donner quelques caractéristiques qui, au fond, me semble-t-il, donnent la raison d'être des banques au niveau économique. Il y avait des gens comme le professeur Farba qui ont dit, encore dans les années 80, et pas dans les années 80, les banques ne savaient pas rien, parce que les marchés pouvaient tout faire à leur place. Hein. Il y avait un petit article, c'est vrai, parce que ça ne servait pas. Et puis, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que les banques, c'est terrible, ça va forcément des gens, parce que ça a été, c'était leur rôle économique. Alors, en fait, quel est le rôle économique d'une banque? Et là, je vais me concentrer sur la banque commerciale, pas sur la banque de financement d'investissement, qui accompagne, pardon, l'investissement, qui est effectivement la banque de marché, qui accompagne les entreprises sur le marché, c'est un rôle déjà différent. La banque commerciale et le financement a deux rôles économiques fondamentaux qui ne peuvent pas se... qui sont irréductibles en réalité, qui correspondent pas à faire l'intermédiation, ça c'est vraiment intéressant, c'est faire correspondre les banques aux besoins de crédit, aux besoins de financement, et en fait la banque prête et aussi en prête auprès des clients, c'est ce que font les banques régionales par exemple dans une région, ce que font les banques nationales qui assurent, etc. Pourquoi c'est important pour le marché financier? Pour une simple raison, c'est qu'il y a une asymétrie d'information dans le pays économique qui est fondamentale entre le prêteur et l'emprunteur. C'est-à-dire qu'au fond, l'information n'est pas du tout la même entre ce que le seul emprunteur de lui-même est ce qu'il va faire et ce que fait le prêteur qui va prêter à l'emprunteur. Ce qui fait que les banques ont un rôle essentiel, irréductible, et que les marchés ne peuvent pas résoudre. C'est tout simplement qu'il y a beaucoup d'emprunteurs particuliers, commerçants, artisans, entreprises jusqu'au moyen grand, qui ne peuvent pas émettre sur le marché financier parce que, évidemment, acquérir l'information suffisante pour prêter en bonne connaissance de cause nécessite un coût d'acquisition d'information, nécessite un coût de traitement d'information qui est trop élevé si on est trop petit et si on s'adresse à des clients trop petits, on ne peut pas dépenser équivalent valablement. Alors comment font les banques? Les banques, au fond, sont des professionnels de la réduction de l'asymétrie d'information. D'une part, parce qu'elles ont des relations longues avec leurs clients en Europe. Et ça, c'est fondamental. Ce n'est pas des relations de marché qui sont une fois qu'ils ont tant d'opportunités, ce sont des relations longues. Donc on apprend à connaître les clients. Deuxièmement, parce qu'on traite leur flux. Et comme on traite leur flux, les entreprises, les amis, hein, les comptes, les entreprises, les particuliers, les commerçants, on apprend encore plus à les connaître, on regarde le risque. Troisièmement, parce qu'on a des analystes professionnels d'analyse du crédit pour voir ce qui est bon de faire, ce qui est moins bon de faire, parce que n'oubliez jamais qu'on traite les points des clients pour bien la vendre. Donc évidemment, nous les redevons des risques qu'on prend. Et puis enfin, on accompagne les clients, ce qui se dit en anglais monitoring, qui en fait est un accompagnement de clients, qu'ils soient particuliers ou entreprises, tout au long de sa relation avec la banque, et on l'accompagne tout en donnant des contraintes parfois. C'est plus ou moins bien pris, enfin les contraintes sont normales pour éviter notamment le surendettement. Et c'est légitime et c'est tout à fait utile économiquement. J'y reviendrai parce que ça va expliquer beaucoup, évidemment, ce qui s'est passé ensuite. Quant à la crise et les effets différenciés sur les banques européennes et les banques américaines. Le deuxième rôle, pour terminer rapidement sur ce point-là, le deuxième rôle économique fondamental, c'est la transformation. La transformation est essentielle. Pourquoi? Parce que vous avez des épargnants qui, en général, préfèrent passer à court terme, et vous avez des emprunteurs qui, très légitimement, en général, préfèrent emprunter à long terme. Pourquoi? Parce que pour emprunter pour une maison, vous mieux emprunter à 15 ans, la maison plus de 20 ans en moyenne, parfois 25 ans. Et puis, pour emprunter, pour financer un investissement dans une entreprise, il faut le temps, tout simplement, que l'investissement soit rentable pour pouvoir correspondre au passé. Le temps pour l'essai. J'essaie. Je vais très bien. Ne t'inquiète pas. Et donc, à ce sujet-là, vous comprenez bien que la transformation, ça veut dire que les banques qui transforment les échéances entre le très court terme ou le court terme des placeurs, des épargnants, et le plus long terme des emprunteurs, les banques prennent des risques en faisant ce métier que les marchés ne peuvent pas faire non plus, et elles prennent des risques, elles prennent le risque de liquidité, bien sûr, et elles prennent le risque de taux d'intérêt que je ne développe pas. Maintenant qu'on voit bien cela, quelles sont les différences de fonctionnement entre les banques américaines et les banques européennes en termes, par exemple, d'effet de la crise? Et la crise a frappé beaucoup plus les banques américaines, qui, étant beaucoup plus nombreuses aussi, sont tombées en faillite par centaines et qui ont coûté extrêmement cher pour solvabiliser des banques qui étaient potentiellement dans des situations terribles. Alors que, par exemple, en France, il y a eu des avancements, des avances de capitaux entre les banques qui sont toutes remboursées, qui ont rapporté d'ailleurs 9% de l'État français et qui ont coûté 0 à nous rapporter l'État français, puisque sinon c'est plutôt remboursé à un capot de l'intérêt plus élevé. Alors parfois, on lit dans la presse, je ne sais où, que ça a coûté de l'argent, c'est pour le plus faux. En Europe, dans les grands pays, la France a pas coûté. Donc ça, c'est pour la crise. Maintenant, pour Bâle 3, et j'avais terminé. Pour Bâle 3, c'est le nouveau ratio réglementaire qui va s'imposer aux banques internationales dans le monde. C'est sympa de savoir que les Chinois ont fait une chimie froide, ça ne s'intéresse pas. Et qu'aux États-Unis, il n'y a pas une banque qui sort ses résultats en ce moment qui est en train de donner des simulations de l'effet de Bâle 3. Alors qu'en Europe, toutes les banques qui sortent des résultats de troisième trimestre sortent toutes des simulations sur l'effet de Bâle 3. C'est intéressant. Alors pourquoi c'est l'effet de chimie froide aux États-Unis? Essentiellement parce que Bâle 3, c'est deux choses, et j'en ai pas mis deux. La première, c'est monter la quantité de capitaux propres pour les crédits ou les pays au marché. Là, évidemment, quand vous utilisez beaucoup, c'est-à-dire que quand vous sortez vos crédits de votre bilan, il n'y a pas de problème, hein, évidemment. C'est aussi un ratio levier, je n'explique pas, mais les banques américaines ont géré ça depuis longtemps. Et c'est enfin des ratios de liquidité qui sont plus forts, qu'avant. Ces ratios de liquidité, en fait, demandant à avoir beaucoup plus d'épargne à long terme, par exemple, par rapport au crédit. Et ça, c'est évidemment beaucoup plus facile pour les banques qui détruisent que pour les banques qui détruisent pas. En d'autres termes, Bâle 3 est très utile pour solvabiliser mieux encore le système bancaire, mais il va avoir un effet très différencié en étant beaucoup plus dur à gérer, même si elles vont bien gérer les banques européennes de façon solide, et beaucoup plus facile à gérer pour les banques américaines parce qu'elles ne se soucient pas beaucoup puisqu'elles détruisent davantage. Attention, ça représente à nouveau votre utilisation. Merci. Nous allons continuer le tour en nous pointant un peu plus sur les questions de budget qui ont déjà été évoquées, on va poser, et de croissance. Parce qu'on voit bien que l'une des questions majeures sur la façon dont l'Europe va sortir de la crise, c'est cette capacité ou non à retrouver la croissance et donc à dégager des recettes qui vont lui permettre de sortir de désormais où elle est pour l'instant bloquée. Donc, je vais d'abord demander à Benoît Perret, mon collègue directeur général adjoint du Trésor, l'économiste du chef, non seulement du ministère, mais aussi de la ministre qui le dit comme ça, et donc lui demander comment il voit les questions de surveillance, dont on a beaucoup parlé, de surveillance budgétaire, de surveillance de politique économique, et pour aller vers la question de croissance.
Oui, merci Jean-Marc et bonsoir à tous. Je vais reprendre la discussion au point où l'ont laissé Daniel Gros et Luca Tsoukalis, même si je discuterai volontiers des questions de régulation bancaire si on en a le temps tout à l'heure. Et je vais peut-être vous livrer ma vision de ce qui a été décidé par le Conseil européen et par les ministres des Finances au cours des dernières semaines et des derniers mois. D'abord, une remarque de méthode. Cet exercice de reconstruction de la gouvernance européenne et en particulier de la gouvernance de la zone euro, il est extraordinairement difficile parce qu'il se fait à une période où les tensions restent fortes, où les marchés restent très nerveux, ça a été dit, c'est la réalité, et où donc il est extrêmement difficile de reconstruire un système qui est encore soumis à de fortes tensions. C'est un constat, mais ça rend l'exercice particulièrement difficile et ça donne aux ministres et aux chefs d'État qui en discutent une responsabilité particulière qui est celle de ne pas proposer des solutions inconsidérées qui aggraveraient la crise. Donc je le dis parce que c'est une situation qui est quand même difficile à vivre. Ensuite, sur ce qui a été fait, je vais commencer par une banalité qui va vous effarer, mais je pense que des banalités sortent parfois des choses intéressantes et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. La banalité, c'est que la zone euro a besoin à la fois de stabilité et de croissance. Donc vous êtes effaré, je le vois sur votre visage. C'est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, parce que la stabilité budgétaire, c'est une évidence. Une partie des racines de la crise se plonge dans des difficultés budgétaires et dans des problèmes aussi de sincérité budgétaire, ça a été dit. Et indépendamment de la crise, on voit que même les pays qui ne sont pas en crise, je pense à la France en particulier, sont arrivés à un point dans l'histoire de leurs finances publiques où l'inflexion est absolument nécessaire en termes de ratio de dette publique et de charge de la dette, et tout simplement parce que la ponction que la charge de la dette exerce sur les politiques publiques et sur la capacité de l'État à régler les problèmes des gens est devenue insupportable. Donc la stabilité, c'est d'abord la stabilité budgétaire. Ça a été discuté et traité, comme vous le savez, dans le groupe qui était présidé par M. Van Rompuy, le président du Conseil européen. Et on est arrivé à un ensemble de solutions qui vont rendre la surveillance budgétaire plus dure, avec des sanctions qui vont arriver plus tôt. En particulier, il sera possible de sanctionner des pays avant que leur déficit n'atteigne le seuil de 3%, ce qui est très nouveau, avec des sanctions qui seront décidées plus rapidement et qui donneront à la Commission européenne un rôle beaucoup plus fort dans la mise en œuvre des sanctions financières. Et qui aussi mettront plus d'accent sur les questions de soutenabilité des finances publiques à travers les ratios de dette. Et ça, je crois que c'est une des conclusions importantes qu'il fallait tirer de cette crise. Ça, c'est pour la stabilité budgétaire. Alors, la stabilité, ça n'est pas seulement la stabilité budgétaire, c'est aussi la stabilité macroéconomique. Et c'était sans doute un élément qui faisait défaut, ou qui en tout cas était très insuffisant dans le système qui a conduit à la crise, dans le système qui avait été construit en 1999. Tout était dans les traités, donc ce n'est pas un problème de rédaction des traités, simplement ça n'a pas été mis en œuvre avec suffisamment de vigilance. Et donc ce même groupe Van Rompuy et ce même Conseil européen a décidé également d'un système de surveillance des modèles de croissance des États membres, de manière à pouvoir adresser des signaux d'alerte quand un modèle de croissance n'est pas soutenable. Et on pense à certains pays périphériques de l'Europe qui n'avaient pas fondamentalement des problèmes budgétaires, mais bien un problème de modèle de croissance qui était fondé sur du crédit excessif et sur des gains de productivité insuffisants. Cette surveillance n'a pas été exercée, il faut qu'elle le soit à l'avenir, et il y a des éléments concrets dans les décisions qui ont été prises par le Conseil européen. Alors, est-ce que ça suffit? Ça ne suffit pas parce que un certain nombre des décisions qui ont été prises au cours des derniers mois sont des décisions de crise, sont des décisions temporaires, et je pense en particulier au mécanisme de stabilité financière qui a été évoqué tout à l'heure par Daniel Gross. Et donc, le débat sur la manière de pérenniser ces mécanismes est légitime. C'est l'objet des engagements qui ont été pris par Nicolas Sarkozy et par Angela Merkel à Deauville. Cet engagement, c'est de construire un mécanisme pérenne de gestion des crises. Alors, il y a diverses solutions, mais je crois qu'il y a consensus pour considérer qu'il faut une implication plus grande du secteur privé, sachant que ça peut passer par diverses solutions techniques, pas forcément des défauts sur la dette, mais en tout cas différentes manières de mieux impliquer le secteur privé. Alors même ça ne suffit pas tout à fait, parce que tout ça ne servira à rien s'il n'y a pas de croissance, et c'est là que je réponds à votre question. Pourquoi est-ce que ça ne suffira pas? Pour deux raisons. Pour une raison économique, qui est que l'Europe est une zone économique qui n'est pas seule dans le monde, et qui a pour concurrents sur les marchés mondiaux les grands pays émergents. Donc si l'Europe ne redresse pas sur le long terme son taux de croissance, elle sera marginalisée dans le débat mondial. Et donc c'est une priorité absolue pour les Européens que de mener les réformes qui vont élever leur taux de croissance. C'est une question de survie dans un environnement mondial qui est très compétitif. Et puis pour une deuxième raison, et là je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure par Luca Tsoukalis, pour une raison qui est politique, qui est qu'à travers tous ces exercices de surveillance, ces sanctions renforcées, cette solidarité renforcée au sein de la zone euro, on franchit, qu'on le veuille ou non, une étape supplémentaire dans l'intégration. C'est ce qui a été dit par Luca Tsoukalis. Et ceci ne peut pas être accepté par les citoyens européens s'il n'y a pas de croissance, si le chômage ne baisse pas. Tout ceci ne sera pas accepté. Et donc il faut absolument des initiatives de croissance qui assurent la soutenabilité non pas seulement économique, mais également politique de tout ce qui a été construit. Alors comment on fait? Bon, on pourrait y passer des heures, je vais être très bref. La croissance, c'est les investissements, et donc c'est une réflexion sur la nature du budget européen et la manière dont le budget européen peut soutenir la croissance. C'est des initiatives nationales de croissance, comme le grand emprunt qui a été mené en France. Mais la croissance, c'est aussi le marché unique. Je pense que c'est probablement le plus important. On va arriver dans quelques mois au 20e anniversaire de l'acte unique. Il faut que l'Europe montre qu'elle est capable de faire franchir une étape supplémentaire au marché unique pour faire baisser les prix pour le consommateur, pour accroître la concurrence, je n'hésite pas à le dire, et pour favoriser les secteurs qui sont les secteurs d'avenir, les secteurs de l'économie soutenable, les secteurs des hautes technologies. Et tout ça, ça ne passe pas seulement par de l'argent public, ça passe d'abord et surtout par une évolution des réglementations pour avoir une économie plus soutenable et avec plus d'investissement. Alors le commissaire Barnier l'a compris, il a déjà fait des propositions sur le marché unique, ça va continuer. Ma conclusion, c'est que tout ceci nécessite sans doute de la part de l'Europe, et là je parle de l'Europe à 27 et pas seulement de la zone euro, parce que le marché unique c'est à 27, c'est pas à 16. Ça nécessite sans doute de la part de l'Europe une plus grande coordination et une approche plus globale des problèmes. Il faut qu'on parle de croissance, de politique industrielle, de politique commerciale, de politique de change, quand on en a besoin, de manière plus intégrée. Et je crois que ça passe par peut-être aussi un abandon d'une certaine naïveté européenne sur la position de l'Europe face à ses partenaires et concurrents. Et je pense aux grandes économies émergentes. Il faut que l'Europe comprenne qu'elle doit mieux défendre ses intérêts dans une économie mondiale qui est très compétitive. Et donc il faut pouvoir faire le lien entre les politiques de croissance, la politique industrielle et également la politique commerciale qui, comme vous le savez, est une compétence commune. Tout ça, c'est en germe dans les propositions qui ont été faites par Michel Barnier. Mais maintenant, il faut mettre de la chair, il faut mettre en œuvre sous ces propositions le plus vite possible, parce que s'il n'y a pas de croissance, de toute façon, on ne s'en sortira pas.
Merci Benoît. Nous allons continuer sur ce thème avec Philippe Herzog, le président fondateur de l'association Confrontation Europe, qui est un lieu de rencontre, je crois que c'est assez original, il n'existe pas assez. Il se retrouve des gens qui n'ont pas l'habitude de parler ensemble et donc qui provoquent des confrontations très riches. Philippe a été professeur à Nanterre, il a été membre. Donc, marché unique, moi je crois que c'était fait peut-être 20 ans. Je reprends un peu qui dit qu'il faut le refaire. J'aurais voulu vous entendre là-dessus. Il y a des urgences et des valeurs qui fallait être.
Merci. Quand j'ai pris mes fonctions de conseiller spécial de Michel Barnier, j'ai publié parallèlement un livre qui s'intitule Tâche infinie. Et je peux vous dire que ma tâche est encore plus difficile que ce que je pouvais imaginer. Pour faire la maison, je reprends en une minute ce qui a été dit. Où en est-on? Au milieu du gué, c'est une forme de principe. On a à peine commencé les travaux rapides et les politiques nécessaires pour sortir durablement de la crise en Europe. On a à peine commencé. On peut effectivement rejeter la récession. Maintenant, la version optimiste des choses, c'est qu'on doit travailler à une sorte de new deal, appeler ça un pacte collectif et solidaire pour une nouvelle croissance durable dans notre espace, créatrice d'emplois. Rappelez-vous qu'après la crise de 1929, il a fallu attendre 1933-1934 pour avoir le new deal. Si vous cultivez l'espérance active comme moi, c'est pas étonnant qu'on en soit qu'au début des travaux. Mais il est absolument indispensable d'accélérer. Pour ce qui a été fait, je partage le diagnostic de nouveau là-dessus, c'est qu'on a parlé au plus pressé, c'est-à-dire stabilisation bancaire et du système financier, on n'est pas au bout des travaux particuliers, mais bon, on a engagé, on a créé des institutions surveillantes en Europe qui n'existaient pas. Fonctionnement, ça ne peut pas ça. On s'est attaqué au problème de la stabilité budgétaire. Vous vous demandez certainement si les politiques d'austérité sont confondables ou pas. Ma réponse est oui, tout dépend du dosage, du contenu, mais c'est indispensable. L'explosion de l'aide publique, c'est mettre les États en garrot et les rechuter sans aucun doute d'ici quelques années ou peut-être moins. Donc on fait de la stabilité. Mais on sert les boulons, on nettoie les aiguilles de Gers. Et pensez-vous que la croissance va venir toute seule pour... Parce qu'effectivement, si on fait de la stabilité, on va avoir des sanctions. Si on ne crée pas plus de richesse, on va se casser les fesses. Donc on marche sur un pied bien sûr. Comment construire la croissance? Alors, autant-nous du milieu de la tête selon laquelle les investisseurs privés vont prendre le relais tranquillement, les nouveaux start-up, les nouveaux investisseurs dévoués au développement, à la création d'une industrie verte pour faire le boulot. C'est faux, vous pouvez attendre le dos. Il y a besoin d'action publique cette fois pour construire cette croissance. Pas simplement l'arrosage keynésien pour éviter la catastrophe, quelque chose de plus subtil, c'est-à-dire réussir effectivement à générer des investissements, créer des infrastructures, développer des compétences humaines, sans lesquelles on ne peut pas avoir de vraie croissance durable, et certainement pas de développement durable qui suppose par exemple des infrastructures avec des coûts fixes très élevés, des coûts de préparation et de réalisation très longs, dont la profitabilité n'est absolument pas assurée, d'où nécessité une intervention publique d'ailleurs, pour désigner les priorités et pour essayer de trouver les leviers de financement qui sont peut-être maigres dans le budget public, mais faire le fait nécessaire, et faire des mariages avec les privés, pour faire des partenariats publics-privés pour réussir à réaliser ces investissements, c'est très dur. Parce que la Commission européenne, en principe, est le pilote. C'est un pilote un peu en difficulté, il faut le reconnaître. Ce n'est pas la coordination intergouvernementale et M. Van Rompuy que vous pouvez espérer réussir à taper de nouvelles croissances en Europe, parce que ça suppose du travail à temps plein par des gens qui ne défendent pas que des intérêts nationaux, ou même s'ils sont clairvoyants, ils ne peuvent pas se taper tout le boulot que je viens de dire, de faire lever les porteurs de projets, de désigner les infrastructures prioritaires, etc. Ça, c'est le travail de la Commission. La Commission, pour l'instant, est là, ce qu'on appelle une stratégie UE 2020, qui remplace la stratégie de Lisbonne des années 2000. La stratégie de Lisbonne, dont eux-mêmes reconnaissent qu'elle a raté. On voulait faire être les champions du monde de la recherche, développement et innovation, c'est pas vrai. Et ils sont contraires, les Chinois. Ils sont en train de nous rattraper, nous passer le temps. Donc, il faut une stratégie, entre guillemets, l'Union de l'État. Nous n'avons pas encore la stratégie, ce sont des objectifs. Comment, ils sont pas mauvais d'ailleurs, les grands outils, effectivement, oui, on a deux. Un, les socles de marché doivent être beaucoup plus dynamiques et solidaires, et au niveau communautaire, en même temps que vous faites de l'austérité au plan national, et j'espère, de façon intelligente, en même temps, si l'Europe n'a pas un niveau communautaire d'impulsion et de solidarité, on n'y arrivera pas. Et donc pour ça, il faut que ce marché unique, où nous sommes tous rivaux, pour la même qui a des excédents sur les autres, parce qu'il est capable de produire, et nous non, hein, pour pouvoir balayer dans notre porte, c'est nous qui faisons le déficit et les excédents. Donc nous avons besoin d'un marché qui permette de doper la croissance en Europe. Et effectivement, la réduction du CO2, les villes propres, la mobilité durable, des objectifs de société sur lesquels il faut mettre de l'argent sur des porteurs de projet. Alors c'est ça la réforme du marché unique, mais faceur à quel obstacle, chaque État-nation poursuit ses propres intérêts et défend ses propres champions et ils en vivent. Et deuxièmement, la culture collective s'est un peu sclérosée. Le même jour où on sortait la pacte de rénovation du marché intérieur, alors j'ai un peu des droits d'auteur, parce qu'en juillet 2007, j'ai demandé à la Commission. Évidemment, le marché, le grand marché de 20 ans, il est sous-performant, il est fragmenté, il n'y a pas les infrastructures, etc. Donc il y a besoin d'un nouvel actinique de croissance cette fois, mais la doctrine mentale du collège, commission, n'est pas terrible. Le même jour, il sort 5-6 communications, les 5 employés prochains, on ne connaît pas quelles sont les objectifs prioritaires, il faut leur dire attention à nos citoyens, où sont les objectifs prioritaires. D'autre part, il faut des leviers, le budget communautaire est dans une impasse, on a une politique monétaire, dont personnellement je pense qu'il a bien travaillé, on peut évidemment discuter en détail, mais. Et l'autre, le budget, il n'y en a pas, on ne peut pas continuer comme ça. Je ne dis pas augmenter de 1 à 2%, ce n'est pas ça la question. Mais faire en sorte qu'avec ces ressources, qui très souvent sont cachées, hein, pour voir quand même, je ne parle pas de la politique économique d'ailleurs, où il faut surtout changer les critères des aides, mais on n'a pas les liquider évidemment. Mais enfin, il y a beaucoup de gâchis dans ces ressources, il faut les mettre précisément sur les objectifs prioritaires, et même de donner des sources propres à ce budget communautaire, sinon chaque État met une bille dedans et retire sa bille à la sortie, il n'y a pas de solidarité. Conclusion, c'est facile, c'est pas le moment de changer les traités, à la marque si on veut faire un fonds monétaire européen, mais c'est pas le moment de commencer les changements de traités. Deux, ne comptez pas sur les fameux gouvernements économiques de M. Van Rompuy, lui c'est un peu médiateur entre les États, c'est pas lui qui va avoir la question. Trois, une réforme de la Commission, horizon 2012-2014, est indispensable avec un vrai pilotage. Et enfin, et ça c'est plus dur pour les gens de Bruxelles et de l'État-Citoyen, il faut la population démocratique. On ne pourra pas faire ces changements-là sans toucher les citoyens et les appeler à se mobiliser, comme ce soir, à s'éduquer sur ces enjeux qui sont des enjeux dont on parle beaucoup.
Je suis un grand fan de l'optimisme, de la liberté
Fritz est directeur des études et de recherche de Natixis. Il est un auteur que je jalouse de best-seller sur les banquiers centraux, sur l'Espagne, sur le Royaume-Uni, sur tous ces modèles qui ne marchent pas aussi bien qu'on a cru qu'ils pourraient marcher, et qui est rarement tout même dans la grande optimisme. La crise a montré, et on en a parlé, qu'on n'avait pas eu seulement dans l'avancée de l'Europe des phénomènes de divergence, on avait aussi eu des phénomènes de divergence. On avait aussi des économies qui avançaient de manière très différente et qu'on avait du mal à les gérer, qu'il n'y avait même pas forcément un accord entre les différentes nations sur la nécessité de gérer ça, ce qu'il faut de divergence, ce qu'il faut au contraire. De la convergence, et ça finit par poser un problème de nos unités même de l'Europe en général et de la zone en particulier. Maintenant, on a tous les tirages.
Merci Jean-Marc, bonsoir. Je voudrais aborder un thème effectivement qui n'a pas encore été touché dans les débats de ce soir, qui est celui de l'hétérogénéité de la zone euro. Et je crois que c'est un sujet extrêmement important et souvent assez mal compris. Cette hétérogénéité a été cachée jusque avant la crise, en fait, par le fait que les pays faibles ou d'économies faibles avaient utilisé massivement le crédit pour doper leurs économies. Le pays qui a la croissance la plus rapide avant la crise, c'est l'Espagne. On sait d'ailleurs aujourd'hui que c'était, enfin, on savait même d'ailleurs à l'époque que c'était par modèle économique, et Benoît en parlait, qui n'était pas tenable d'endettement, de construction débridée, de bulles immobilières. Mais aujourd'hui, nous voyons clairement apparaître deux groupes dans l'Europe, deux groupes de pays, grossièrement, d'un côté, les pays autour de l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, la Belgique, la Finlande, peut-être même un jour l'Irlande, qui est plutôt dans ce groupe, et puis un second groupe qui est le groupe, on pourrait appeler du Sud, la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, le Portugal. Et les différences entre ces deux groupes de pays sont absolument gigantesques. Je ne voudrais pas vous abreuver de chiffres, mais le premier groupe de pays a des exportations vers les pays émergents qui sont trois fois plus grandes que le second. Les coûts salariaux unitaires dans le premier groupe de pays ont baissé 30% par rapport à ceux du second. Les profits des entreprises des pays autour de l'Allemagne sont considérablement plus élevés que ceux des pays qui sont des pays d'Europe du Sud. L'Europe du Sud s'est développée dans les secteurs de services peu sophistiqués, la distribution, la construction bien sûr. Et puis ça a déjà été dit, les pays du Nord ont des excédents commerciaux considérables, les pays du Sud ont des déficits, l'effort d'innovation a été très différent. Alors il y a deux façons de prendre cette hétérogénéité. La première, et j'ai comme l'impression que c'est plutôt la tendance aujourd'hui, c'est de considérer que c'est quelque chose de pathologique. Et qu'en fait, les pays du Sud sont fautifs. Ils n'ont pas utilisé les bons modèles économiques. Ils n'ont pas suffisamment investi. Ils n'ont pas suffisamment fait de gains de productivité. Ils ont trop augmenté leurs salaires. Ils ont perdu des parts de marché. Et évidemment, à ce moment-là, on leur dit, faites un effort, réindustrialisez-vous, baissez vos coûts, devenez plus compétitifs, redevenez des puissances industrielles. Et puis une seconde façon de prendre l'hétérogénéité qui est la mienne, qui est de dire au moins en partie, cette hétérogénéité est totalement normale, structurelle dans une union monétaire. C'est plusieurs articles d'ailleurs d'économistes importants comme Svensson, Krugman, une vingtaine d'années, disent une fois qu'on est dans une union monétaire, on se spécialise et les pays deviennent hétérogènes. Et j'ai peur qu'il y ait une confusion en fait dans l'esprit entre le fait que effectivement une union monétaire ça mène une convergence nominale, on a à peu près les mêmes inflations parce qu'on a à peu près on a la même politique monétaire, mais ça peut amener une totale divergence réelle. Il y a des pays qui deviennent des pays industriels, il y a des pays qui deviennent des économies de services. Et je crois qu'au stade où nous en sommes aujourd'hui, cette évolution est devenue tout à fait irréversible. Dans les pays du Sud, l'industrie fait moins de 10% des emplois. Dans les pays du Nord, c'est 20% des emplois. C'est encore pire en termes de valeur ajoutée. On ne fera pas marche arrière. C'est quelque chose qui est irréversible. Les entreprises sont parties. Les coûts salariaux sont trop différents. Il y a des années d'écart dans l'effort de recherche-développement. Et à nouveau, ceci ne me choque pas. C'est quelque chose que vous attendez, que vous observez aux États-Unis. Personne n'est en train de suggérer que la Floride redevienne un grand État industriel. Donc je crois plutôt qu'au lieu de se dire que... Je suis un peu inquiet d'un petit morceau de ce qu'a dit Benoît, c'est de dire dans la surveillance multilatérale nouvelle qu'on va mettre en place, on va vérifier qu'il n'y a pas des modèles de croissance anormaux divergents. Et les modèles de croissance sont forcément divergents. Vous n'êtes pas la même croissance si vous êtes l'Espagne ou l'Allemagne. Et ils seront de plus en plus divergents. On faisait des voitures partout dans l'Union européenne avant l'euro, on fait des voitures maintenant dans le cœur de l'Europe industrielle qui fabrique des voitures. Et ceci va se prolonger. Donc notre problème, je crois, est très compliqué. Et j'ai trois pistes de réflexion pour finir. Un, il va falloir faire l'effort intellectuel de séparer la bonne et la mauvaise hétérogénéité. Probablement quand même, dans les pays du Sud, il y a eu trop de crédits, des salaires qui augmentaient trop vite, pas assez de recherche, et ceci, trop de fonctionnaires du mon voisin de droite, je suis content que c'est celui qui le dise, mais aussi, il y a une bonne hétérogénéité. Nous avons besoin d'exploiter les avantages comparatifs qui ne sont pas les mêmes. Donc on ne va pas pouvoir imposer l'homogénéité, c'est totalement impossible. Deuxièmement, il va falloir donc avoir des règles qui intègrent l'hétérogénéité. On ne peut pas avoir les mêmes règles budgétaires dans des pays qui n'ont pas les mêmes taux de croissance, qui n'ont pas les mêmes productions, qui n'ont pas les mêmes croissances potentielles. La croissance potentielle du Sud, aujourd'hui, c'est à peu près 1% par an. La croissance potentielle du Nord, c'est à peu près 2,5%. Vous pouvez difficilement imaginer que vous allez imposer les mêmes règles budgétaires, la même supervision. Troisièmement, ça pose le problème évidemment monstrueux, dont on a déjà souvent parlé, de l'absence totale de fédéralisme, du fait que vous allez avoir un bout de l'Europe qui va croître de 1% par an, un bout de l'Europe de 2,5%, et qu'il ne se passe rien entre les deux. Alors Philippe, oui, c'est bien d'avoir des projets européens d'infrastructure, mais ce n'est pas ça qui va régler la divergence des revenus par tête entre ces deux morceaux de l'Europe. Et je crois que ceci est un point très compliqué. Et dernier point, il faudrait éviter de forcer l'ajustement sur les plus faibles. L'ajustement par les plus faibles, c'est ce qui a provoqué l'explosion du système monétaire européen en 92. Et donc, je ne sais pas si c'est toi, Daniel, qui l'a dit, il faudrait avoir une espèce d'ajustement symétrique, hein, et pas d'ajustement qui pénalise le pays dont déjà est l'économie la plus faible. Donc attention à l'hétérogénéité, elle est normale, elle est totalement endogène dans une union monétaire, on ne peut pas l'empêcher, et donc on ne peut pas avoir des règles homogènes pour gérer une union monétaire.
La solution se profile à l'horizon. Merci de nous avoir donné la voix.